Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ? La série musicale de Matteo Caronta.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis lundi, nous évoluons autour des musiques qui ont chanté la nature. Du chant amoureux d'Orphée aux enregistrements du silence de Tchernobyl, nous avons exploré les voies de l'Homo musicus. Aujourd'hui, jouons sur les frontières. Celles de la nature, bien sûr, et celles de la musique aussi. Immergeons-nous dans d'autres mondes sonores que le nôtre, en prêtant une oreille attentive au chant des oiseaux, au croissement des grenouilles provençales ou au chant des baleines. Posons nos oreilles sur les paysages sonores de notre monde qui en disent bien plus qu'on pourrait le penser.
France Culture, la série musicale.
Il y a différentes manières d'écouter le monde et de le chanter. Pendant une heure, nous allons écouter ceux qui composent pour la nature, avec la nature et dans la nature. Jazz oiseau, field recording ou concert des abysses, nature. Mais qu'est-ce que tu nous chantes ? Épisode 5, les artistes du vivant. Mother Earth Plantasia, la symphonie pour faire pousser des plantes composée par Mort Garson. Mort Garson est un musicien de l'ombre qui travaille en studio et a un penchant plutôt marqué pour la bidouille. En 66, alors qu'il travaille à ses heures perdues sur un projet cosmique autour des 12 signes du zodiaque, Garson est présenté à Robert Moog. Moog vient de créer une invention qui ressemble plus à un cockpit de navette spatiale qu'à un instrument et qui produit des sons arrondis et électroniques. Un meuble muni d'une cinquantaine de branchements, de boutons qui fonctionnent au transistor et qui permettent la production de sons extraterrestres, le synthétiseur Moog. De quoi exciter les papilles auditives de Garson, qui décide tout de suite de travailler sur ce son. Le projet Plantasia est né. La pochette de ce guide auditif pour le jardinage est accompagnée d'une note. Warm music for plants and the people who love them. Musique chaude pour les plantes et ceux qui les aiment. Pour la petite histoire, on dit que cet album était distribué gratuitement pour l'achat d'un matelas. D'autres affirment qu'il était distribué tout aussi gratuitement chez le fleuriste branché de Melrose Avenue à Los Angeles, le Mother Earth Plant Boutique. Quoi qu'il en soit, la sortie presque incognito de cet objet expérimental pour l'époque est arrivée jusqu'aux oreilles de la CBS qui demande à Robert Garson de composer un titre galactique pour accompagner l'alunissage d'Apollo 11 lors de sa retransmission en direct à la télévision. L'anecdote mérite d'en réécouter un passage et de replonger dans Plantasia. Entre les plantes qui poussent et le Moog qui vibre, le son prend des allures de berceuse rétro-futuriste. Si vous avez des violettes africaines, c'est le moment de les approcher de vos enceintes, elles vont pousser. Ode to an African Violet, Mount Garson, Plantasia, le premier album 100% Moog. La douce musique de Mort Garson. Si cet expérimentateur a travaillé de manière sensible sur la question de plantes, certains scientifiques se sont sérieusement penchés sur la question, en partant d'une question simple. Si la musique nous fait du bien, si elle a la capacité de nous apaiser, pourquoi ne serait-ce pas le cas pour les plantes? On connaît l'idée de diffuser du Mozart pour mieux faire pousser les vignes. Mais certaines mélodies peuvent agir directement sur les molécules des vignes et donc agir sur les maladies qu'elles pourraient développer. Joël Sternheimer, docteur en physique et musicien, a inventé une science ou une musique, ou peut-être les deux, la génodique. Il s'agit de jouer les mélodies de protéines qui forment alors le nom poétique de protéodies. Celles-ci peuvent agir sur des virus ou sur des champignons qui s'attaqueraient par exemple à un pied de vigne et le protéger. Le principe n'est pas si compliqué. La protéine est composée d'un assemblage d'acides aminés, un peu de science. À chaque acide aminé correspond une fréquence que l'on peut calculer par une simple, dira-t-on, équation de physique quantique. Le son retranscrit de l'acide aminé est extrêmement aigu, loin, très très loin de ce qu'il est possible d'entendre pour l'homme. Mais en le faisant descendre de 76 octaves, on trouve une note audible. Et en associant les notes de tous ces acides aminés, les scientifiques créent une mélodie naïve, la protéodie que le vivant reconnaît. La protéodie transforme en son la structure des protéines et peut modifier directement les molécules. Et il y a autant de mélodies possibles qu'il y a de protéines dans l'univers. La source de création est phénoménale. La protéodie que vous allez entendre est un placebo. Genedix, qui produit ces protéodies, refuse de diffuser de mélodies qui pourraient potentiellement avoir une interaction avec des protéines humaines. Je vous ai dit que Joël Sternheimer, notre physicien quantique des vignobles, était musicien, et je ne plaisantais pas. Sous un nom de scène Évariste, Sternheimer déclamait dans les années 60 un rock expérimental aux limites du show burlesque, avec des titres tout à fait raccord avec les passions du personnage. Dans son album E égale MC2, il pose une question que nous nous sommes tous posés. Connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral ?
Connais-tu l'animal?
Do you know that beast?
Qui inventa?
Who discovered?
Le calcul intégral.
Integral calculus.
Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton, ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est les courbatures? Moi, j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette.
Les propositions romantiques de Joël Sternheimer, alias Évariste, avant qu'il ne découvre la musique des protéines de vigne. Puisque nous sommes passés des fleurs en pot aux vignes en terre, osons le pas et passons aux arbres. Certains arbres sifflent sous le vent. Dans les mines, on préfère les pins aux châtaigniers pour construire les galeries qui plongent sous terre. Les pins grincent avant de craquer. Ils donnent un signal vital aux mineurs. Ils leur sont solidaires. L'artiste Giuseppe Pennon, fils et petit-fils d'agriculteurs, est l'un des plus jeunes membres du mouvement de l'Arte Povera en Italie. Le sculpteur se laisse émerveiller par la nature, suit la croissance des arbres, joue sur la couleur d'une oxydation naturelle, sur les autres temporalités qui cohabitent avec la nôtre. Ici, il s'intéresse au son interne des arbres, à ce qui se passe dans le tronc d'arbre vivant. Dans son projet de transcription musicale de la structure des arbres, Pennon se rend dans l'Ardèche et percute des arbres avec un maillet pour écouter leur résonance, comme on tape sur un tambour. Le son file jusqu'aux feuilles et s'enfonce dans les racines, sous la terre. Ces vibrations qui prennent la forme de grincements graves, Giuseppe Pennon les a posées sur une partition, permettant ainsi à qui les jouerait de reproduire un fragment de paysage. Vous pouvez maintenant jouer du tilleul ou du cyprès. Giuseppe Pennon a joué sur 14 arbres. Nous avons donc la possibilité entre le chêne vert, le jujibier, le tilleul, le cerisier ou le genévrier de Phénicie. Mais c'est le châtaignier qui a gagné notre préférence. La voix du châtaignier enregistrée par l'artiste Giuseppe Pennon. Dans les Alpes, c'est un autre son qui fait chanter les bois. Le violoncelliste Mario Brunello pose son instrument dans le bois où celui-ci a été coupé, en 1560, il y a plus de 4 siècles et demi. C'est la forêt de Paneveggio, dans le nord de l'Italie, la même où Antonio Stradivari allait choisir ses arbres pour faire sonner au mieux ses violons légendaires. Les bois sont comme les vins, plus ils vieillissent, mieux ils sonnent. Les pins immenses de cette forêt sont plus jeunes que le violoncelle de plusieurs centaines d'années. L'écrivain Paolo Rumis, qui accompagne Brunello dans cette traversée, décrit la scène. Il l'appuie contre un tronc, enfonce de billets la virole dans l'écorce, il fait sonner des notes basses dans la caisse en bois, explore avec patience, sonde jusqu'à qu'il se passe quelque chose. L'arbre, un géant de 30 mètres, réagit. Il se réveille, résonne dans toutes ses fibres, devient un prolongement du luth. La moitié de la forêt joue, reçoit ses vibrations, comme si elle les savait par cœur. Elle reconnaît la voix de son ancêtre. Paolo Rumis rajoute « Ce n'est pas de l'autosuggestion. Le luthier qui accompagne Mario écoute, stupéfait, l'oreille collée au tronc. Même lui n'a jamais rien entendu de pareil. Le son se transfigure, change de légèreté, de profondeur, de douceur, de timbre, de couleur. Jamais personne n'avait essayé de faire résonner des arbres vivants. » Mario Brunello interprétant la suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, la Sarabande. Mais changeons d'ambiance. Nous sommes en 1973 à Vancouver. Murray Schafer enregistre des sons amenés à disparaître. Le son de l'océan ou des forêts, la vie des quartiers de la ville, ou l'environnement du port industriel. Murray Schafer décide alors de créer un catalogue universel de la mémoire sonore et il fonde la même année le World Soundscape Project, le projet de paysage sonore du monde. Les scientifiques enregistrent les archéologies du futur, conservent des traces d'espèces disparues, de forêts rasées, d'industries abandonnées. Avec le soutien de l'université Simon Fraser, ils enregistrent tout. Le son des cloches dans une ville, la sortie des écoles, le bruit des pas sur des galets, les bruits du galet dans le vent, le bruit du vent sur des feuilles, et ainsi de suite. Ils forment la mémoire du monde. Le field recording se développe aussi comme une démarche artistique. Parmi eux, un précurseur, c'est Knud Victor, un peintre danois qui a posé ses valises en Provence.
Je me rappelle toujours un jour où je suis monté dans le versant de la montagne, que je regardais devant moi une vallée, c'était ma vallée, où c'est devenu ma vallée, et j'ai entendu une voix. Une voix d'un paysan qui criait à son cheval. Et pour moi, tout à coup, cette voix est devenue et a pris une forme presque solide qui correspondait exactement à la vallée et le volume de la vallée. Et j'ai compris que pour moi, c'était très, très important, cette liaison entre l'image, même... La sensibilité, ou plutôt le côté sculptural et le son. Et je crois que c'était une des choses qui m'a fait travailler avec le son pendant beaucoup d'années.
Après cette épiphanie sonore, Knud Victor se met à peindre les paysages comme on pourrait le faire avec de l'aquarelle. Il enregistre inlassablement le son des oiseaux, des grillons qui l'entourent ou des fourmis avec lesquelles il développe une intimité sonore. Il explique par exemple qu'après de longs mois d'enregistrement et d'écoute, il a compris que le duc, qu'il passe parfois des nuits entières à enregistrer couché au pied des arbres, chante différemment à son approche. Le duc, pour Knud Victor, le reconnaît. Ici, il enregistre le rêve d'un lapin.
Un jour, j'ai vu un petit lapin. Et j'ai vu où était son terrier. J'ai mis un micro dedans. Et comme ça, en pleine chaleur, le petit lapin est venu dans son terrier. Il a vu le micro. Il s'est fâché un peu, commencé à mordre des dents, et puis ça faisait des bruits terribles. Et puisqu'il faisait chaud, il a commencé à dormir. D'abord avec des respirations. Et puis ça commence à faire du bruit, il a ronflé, et puis c'est de plus en plus de bruit.
Les peintures sonores de Knut Victor forment un univers onirique unique. Dans Images, qui est le premier enregistrement qu'il publie en 1972, il fait jouer le bruit d'une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, et c'est absolument magnifique. Le field recorder Bernie Krause, dont nous avons écouté les péripéties amazoniennes hier, nous initie à écouter activement la nature. Krause ne parle pas de paysage sonore, il emploie le mot de biophonie, et il part depuis plus de 40 ans à la recherche des harmonies orchestrales de la nature. Écoutons une de ces biophonies accompagnée à la guitare par Country Joe McDonald, le rocker folk qui a fait vibrer Woodstock. Cigales, criquets et hiboux, cicatas, cricket and owl, Bernie Krause. David Rothenberg et Corinne Erel ont parcouru la nuit berlinoise à la recherche d'une rencontre du troisième type. Ils ont cherché des rossignols disposés à jammer avec eux. David Rothenberg joue de la clarinette et de la clarinette basse. Et Corinne Erel enregistre et mixe en direct le chant du rossignol. Le résultat de cette rencontre opportune et nocturne laisse rêveur. Ces enregistrements donnent un album bluffant. Berlin Bulbul, Bulbul, comme le rossignol en turc. Dans l'enregistrement que vous écoutez, il joue sur les bords de la Spree, le 9 mai 2014. Tout ce que vous entendez ici est produit en direct.
Culture, la série musicale d'été, Matteo Caranta.
Thank you.
oiseaux, The Bird de Christophe Chassol, le prodigieux pianiste et compositeur de jazz qui joue et dialogue dans des instrumentations absolument délirantes avec nos amis les oiseaux. Chassol est un expert du genre, c'est le jazz oiseau, le sifflement magique. En mimant les voix humaines et le chant des oiseaux, il fait de nos voix des chants d'oiseaux et des chants d'oiseaux des voix. Un dialogue interposé par ses doigts sur le piano, c'est bon, très très bon. Jazz oiseau de Christophe Chassol. Il y a un autre oiseau dans le jazz, un géant, une légende, celui qui a créé un style, le bebop, et qui est mort trop tôt à 34 ans, dans l'alcool et la drogue. Charlie Parker joue si vite, la suite rythmique de ses gammes est si complexe, qu'on l'appelle le Bird. Et un club à New York porte aussi son nom, c'est Birdland. Ici, on pourrait croire que c'est un oiseau qui a pris la forme d'un saxophoniste pour nous épater, et c'est réussi. Ornithologie, Charlie Parker.
Thank you very much, Charlie Parker. I don't want to keep anybody waiting, in particular myself, because I'd like to hear right now from the guy for whom Birdland was named. On alto, the bird Charlie Parker. Beginning with Ornithology, Bird. Thank you.
Bird, Charlie Parker. On imagine que pour Charlie, atteindre une telle dextérité et mériter ce nom de Bird, ça n'a pas été l'affaire d'une minute, malgré le génie. Mais est-ce que c'est le cas chez les oiseaux, les vrais, ceux qui ont des plumes et des nids? Comment font-ils pour apprendre à chanter? Comment est-ce que ça se passe? Le Ménure Superbe est le champion toute catégorie de l'imitation sonore. Christophe Chassol et David Rothenberg en pâlissent d'envie. Pour attirer les femelles, les mâles préparent une scène dans la forêt. Ils écartent les feuilles au sol, créent un promontoire naturel dans lequel ils s'installent, avant d'entonner leur chant d'amour. Commence alors une danse prodigieuse et surtout un chant surprenant. L'oiseau est capable de produire les sons les plus étranges et c'est celui qui en produira le plus qui aura le plus de chances de remporter les faveurs de sa dulcinée. Les menures, appelés les lyrebirds en anglais, les oiseaux lyres, reproduisent les sons qu'ils entendent et peuvent chanter des séquences de 25 sons différents. Ils copient le chant d'autres oiseaux, mais aussi les clics d'un appareil photo, le bruit d'un chantier ou d'une guitare électrique. Le ménure inverse le rapport, c'est lui qui imite l'homme et non l'inverse. Tous les sons que vous entendez proviennent de l'incroyable ménure sublime d'Afrique du Sud. Mais bon, assez parlé d'oiseaux, il est temps de plonger dans les abysses. Le groupe danois Between Music plonge en apnée dans des aquariums pour jouer un concerto sous-marin avec des instruments modifiés pour résonner dans le monde du silence. Pour jouer sous l'eau, chacun dans leur aquarium, Between Music a dû imaginer des instruments adaptés. Un violon qui sonne sous l'eau, des percussions capables de porter de la résonance en milieu aquatique, des micros pouvant capter une voix chantant sous l'eau. Hydralophones, hydrophones et cristallophones sont utilisés et amplifient les ondes. Ils donnent des sons qui évoquent un peu les mammifères marins. Mené par Laila Skovmand, la sirène de la musique aquatique, on se demande ce qu'il se passerait s'ils jouaient dans les océans. Peut-être que d'autres créatures se joindraient à eux pour une symphonie des mers. petit détour dans l'océan Pacifique. À la fin des années 60, en pleine guerre froide, les Américains placent des hydrophones dans leur base à Hawaï, à la recherche de sous-marins soviétiques qui pourraient se balader dans la zone. Et ils entendent ça. Ne sachant pas trop quoi faire de ces enregistrements, la marine propose à deux scientifiques, Scott Mavey et Roger Bain, qui étudient ces bruits marins, il leur propose d'essayer de décrypter ce que veulent dire ces chants de baleines. Scott Mavey, linguiste, Roger Bain, biologiste. En étudiant les sons émis par les baleines, en classifiant les unités sonores, ils se rendent compte que les baleines produisent des séquences qui se répètent en boucle, et qu'il s'agit donc d'un chant. Leur publication fait le tour du monde scientifique, et maintenant l'idée d'un chant de baleine est ancrée dans leur représentation. Mais l'histoire va plus loin. En août 77, lorsque la NASA envoie la sonde Voyager 1 dans l'espace pour qu'elle sorte du système solaire à la recherche d'éventuelles intelligences extraterrestres, elle y place un disque contenant des extraits de langue humaine, des bruits du vent, de vagues, des photos de la Terre, des villes et des jungles, des enregistrements de Bach, de Mozart, et les chants posés de nos baleines, les Humpback Whales de Roger Payne et Scott Mavey. Écoutons la balade pour trois baleines de cet album mythique. Le chant des baleines n'est pas seulement parti dans l'espace pour échanger avec les extraterrestres, il a fait le tour de la folk américaine. Lou Reed s'en inspire dans un slam folk enflammé, mais c'est Judy Collins qui incorpore les sons de l'album de Scott Mavey et Roger Payne en Farewell to Tarwafi, où elle reprend un vieux chant de chasseur de baleines, prêt à partir pour le Groenland.
Where the icebergs do float on. is covered with snow. A cold coast of Greenland is barren and bare. No seed time nor harvest is ever known there. And the birds here sing sweetly. But there's no bird in Greenland to sing to the whale. There is no habitation for a man to live there. And the king of that country is the fierce Greenland bear. And there'll be no temptation to tarry long there. With our ship bumper full, we will homeward repair.
Poétique du DJ et producteur de musique électronique Molécule. Après avoir voyagé sur un bateau dans l'Atlantique Nord pour son album 60-43e Nord, Molécule a remis les pieds dans le froid avec 22, moins 22 degrés. Un voyage au sud-ouest du Groenland où il enregistre les vibrations du cercle polaire. Hommes, Molécule compose un bruyant silence électronique. Thank you. Chris Watson et décide, après avoir été le témoin d'imposantes tempêtes dans la mer du Nord, de suivre un système cyclonique à travers la Scandinavie et de poursuivre le vent et ses effets. Nous sommes sur la côte écossaise. Chris Watson est venu tous les automnes pendant 5 ans et enregistré le bruit des courants, des marées de pleine lune et les oiseaux marins. C'est un no man's land. Aux antipodes de molécules et Chris Watson, les pas d'Andrea polis sur le glacier Taylor en Antarctique. Sous ses pieds, 3 km de glace et rien, absolument rien, aucune végétation aux alentours. Il marche et on ne sait pas vers quoi il se dirige. Mais nous, on se dirige vers la fin de l'émission. Et j'espère qu'il n'y a plus rien qui saurait vous séparer de la nature. Pour finir l'émission, je vous propose d'écouter le DJ Rivers Rayara dans une techno réjouissante, la Frog Mania. C'est la fin de cet épisode et avec lui se termine cette semaine de nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes. C'est la fin aussi de la série musicale d'été qui a fait tomber toutes sortes de murs cet été. Mais si vous en avez manqué ou si vous avez adoré ces émissions, vous pouvez faire et refaire tomber les murs autant de fois que vous le voulez sur le site de franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Un grand merci aux connaissances abyssales d'Antoine Villose, de Romain Couturier et de François Merlin de la discothèque de Radio France. Merci également aux lectures d'Anne-Lise Signoret qui ont accompagné cette série musicale, ainsi qu'aux propositions de Zoé Fernandez à la documentation. Merci à Laure Chastan pour sa collaboration hydrophonique. Merci à Marine Decamp et Aude Vassan pour leur recherche et leur trouvaille INA. Merci également à Antoine Lachan et Clément Perruche pour la page web. Un grand merci à tous les oiseaux qui ont chanté dans mes oreilles depuis le début de cette aventure musicale. À la réalisation toute cette semaine, c'était le Rossignol, Nathalie Salle, et à la technique aquatique, aujourd'hui, Laurie Vachon. Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ? Une émission proposée par Matteo Caranta. À bientôt !